A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Silence en joue, Erwan Cario, bonjour. Ça y est, c'est la rentrée, un peu en retard, certes, mais c'est la rentrée de la 11e saison de Silence on joue. Ça veut dire qu'il y a 10 ans, très exactement, à quelques jours près, c'était toute fin septembre, et on enregistrait le premier épisode de la première saison de Silence on joue, qui s'appelait à l'époque, rappelez-vous, pour ceux qui étaient là, la semaine du jeu vidéo. Hein, oui, non, on n'avait pas. Du coup, on a changé. Et donc, on doit rattraper. Voilà, on rentre là dans le vif du sujet, et le vif du sujet, il est lourd parce que on s'est arrêté, mais le jeu vidéo ne s'est pas arrêté pendant les 3 derniers mois, malheureusement pour nous. Enfin, non, pas malheureusement. Faut pas déconner. Mais si on devait résumer, enfin on va parler des jeux même, mais si on devait résumer, si cet été, cette rentrée avait été un phénomène, ça aurait bien sûr été PlayerUnknown's Battleground qui a tout ravagé sur son passage. On avait fait un numéro spécial en fin de saison dernière. Je rappelle ce qui s'est passé fin septembre est monumental. Steam en lui-même a déjà battu un record avec 15 millions de joueurs simultanés le week-end de fin septembre, mais sur ces 15 millions de joueurs simultanés, 10% des joueurs jouaient à PlayerUnknown's Battleground, c'est-à-dire que nous avons un jeu qui avait plus de 1,5 million de joueurs en simultané. On rappelle la courbe des ventes de PlayerUnknown. Le 2 mai, 2 millions de joueurs. Le 22 juin, 4 millions. Le 22 août, 8 millions. Le 5 septembre, 10 millions. Et fin septembre, on dépassait les 12 millions de joueurs. Un phénomène dont les victimes à venir seront, et on peut le prédire, Call of Duty et Battlefront et les FPS classiques qui vont, à mon avis, mais c'est peut-être une prévision à la con, avoir du mal à se remettre d'une concurrence un peu venue de nulle part. Le hold-up de cette rentrée, c'est Fortnite Battle Royale, hein, qui arrive avec exactement la copie conforme de PlayerUnknown's Battleground. Fortnite, qui est un jeu un peu bizarre, un peu ovni, développé par Unreal, enfin par les Epic, et qui a sorti un mode gratuit en free-to-play de Battle Royale, qui est une copie conforme du gameplay de PlayerUnknown's, mais il est free-to-play, il est disponible sur les consoles, et lui, en quelques semaines, jours, il a dépassé les 7 millions de joueurs. Je pense que ce qui est assez intéressant à venir dans les mois qui viennent, c'est qu'on va avoir un Battle Royale de Battle Royale. Hein, voilà, c'est ça aussi le jeu qui va... Ça va paraître logique à la fin.
Ou un Battle Royale dans Call of Duty. Et à ce moment-là...
Mais oui, mais parce qu'il y aura un Battle Royale de Battle Royale. Bah. C'est forcé. Le prochain Rainbow Six, je ne sais quoi, ou le prochain Battlefield, il y aura des Battle Royale. Oui. Est-ce qu'il en restera qu'un à la... est-ce qu'il y aura une réduction de zone à la fin où il n'en restera que deux, et il y aura un headshot à venir d'un Battle Royale sur un autre? On va voir. L'escroquerie de cette rentrée et de cet été, c'est encore une fois, enfin moi je trouve que ça prend des proportions qui sont dingues. C'est les microtransactions à l'intérieur des jeux qu'on paye. C'est absolument fou, que ce soit d'ailleurs dans des jeux comme PlayerUnknown's Battleground, où il y a des caisses où on peut avoir des cosmétiques et des éléments cosmétiques, et les joueurs sont amenés à payer alors qu'ils ont déjà payé. Et le truc, mais on sera amené à en reparler les semaines à venir, d'un jeu qui vient de sortir, de Forza Motorsports 7, où pour avoir les voitures les plus puissantes, et ben il faut acheter des clés de caisse qu'on ouvre, et il y a des résultats aléatoires, donc on n'est pas sûr d'avoir la voiture qu'on veut, même si on rack. C'est quand même des trucs dingues.
Pas débloquable in-game
Non, enfin peut-être, mais avec dans des durées. Enfin, si tu veux, en fait, tu peux acheter des clés de caisse avec de l'argent in-game, mais il faut jouer des heures et des heures. Donc, Donc en fait, les gens sont incités à payer alors qu'ils ont raqué quand même 70 balles pour leur jeu. Moi personnellement, mais on sera amené à en reparler parce que c'est un peu ma news d'intro, c'est un gros doute de cette rentrée, c'est que je n'ai pas, j'ai pas réussi à être hypé par la dernière bande-annonce de Red Dead Redemption 2. Ça me trouble énormément.
Je suis d'accord.
Je ne sais pas pourquoi, c'est quand même peut-être le jeu que j'attends le plus depuis 5 ans et il y a eu cette bande-annonce où on se retrouve avec un personnage qui n'est pas du tout attachant, qui est le contraire d'un personnage attachant, des situations qui sont seulement violentes, seulement... il manque une sorte de promesse liée au Red Dead Redemption. Je ne sais pas encore quoi en penser, il faudra que je fasse une auto-analyse profonde. Peut-être que tu as une analyse, toi, de cette impression.
Pour dire qu'avec Rockstar, on s'attend toujours à des engagements, à ce qu'ils fassent peut-être un peu évoluer le média. Et effectivement, le fait que ce personnage Loa, en plus, on le connaisse déjà, parce que c'était un personnage plus ou moins dont on parlait dans le premier. C'est vrai qu'on attendait peut-être un perso afro-américain, un perso amérindien, une femme. Mmh. On attendait un truc...
Fasse bouger les lignes.
Voilà, ouais. On attendait quelque chose comme ça, quelque chose... Moi, c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu plat et ça m'a un peu déçu.
Ça sent le grand classique, quoi.
Ouais, voilà, c'est vrai que...
Alors que Red Dead Redemption était au-dessus du grand classique, enfin, proposait autre chose.
En général, on est plutôt habitué à des ruptures.
Et enfin... Le podcast de cette rentrée et de cet été, non pas de cet été pour le coup, c'est le départ de Silence on Joue, mais aussi de ZQSD. Hein, voilà, il y en a plein des podcasts de jeux vidéo. Voilà, mais donc, je vais commencer par accueillir trois de mes chroniqueurs favoris. N'en déplaise à un qui n'aime pas du tout cette expression. Mais Kevin Bitterlin, bonjour Kevin de JV et du podcast ZQSD.
Bonjour,
ça
bonjour
fait
à tout le monde.
Plaisir de te revoir pour ce début de saison. Patrick Helio, hein, qu'on ne présente
dix
plus.
10 ans, 10 ans, ça fait drôle.
J'étais destinataire du premier mail.
C'est pas le choc, non?
Ça devait être.
Il me semble, si j'ai pas de bêtises.
Non, c'était pas. C'est, peut-être pas. Il faudra que je retrouve le programme, c'est le mail d'après que.
On
verra, on en reparlera. Et Franz Zerupt de Libération.
Bonjour.
Salut Franz. Et donc, oui, je n'ai pas parlé du programme qui est le jeu de. Parce qu'on a essayé de rester dans l'actu, donc on va parler de Cuphead, évidemment. Puis, on va essayer de commencer à rattraper un petit peu des sorties de l'été. Évidemment, ça sera un petit peu en mode mitraillette. Hein, on est désolé, on va pas forcément s'attarder sur chacun. Les titres, mais on parlera de Mario et des Lapins Crétins, de Sonic Mania, de Destiny 2, de Metroid, de Dishonored, Death of the Outsider, et enfin, parce qu'on est un peu obligé, enfin je suis un peu obligé, enfin on s'en fout, mais de NBA 2K18. Voilà.
Parfait.
Voilà, et c'est bon, c'est fini, on a fait une heure d'intro, c'est bon, on est pas mal. Hein. Mais quand même, avant tout, avant de rentrer dans le vif du sujet, Patrick.
Oui, une news rétro, Patrick. Évidemment, pour commencer. Hein. On parlait des événements de l'été qui sont passés depuis quelques semaines. Un des événements, c'était le carton de la Super NES Mini qui est sorti, qui a fait un carton plus ou moins attendu, contrairement au carton de la NES Mini l'année dernière, qui était moins attendu, qui était plus une surprise. Là, on savait que la Super NES était très attendue, parce que console peut-être plus proche des joueurs aujourd'hui, avec des jeux plus beaux, et puis des classiques incontournables.
Donc là,
Et un inédit, Star Fox 2, ça s'était très bien joué. Donc la console mini, ça cartonne, en tout cas chez Nintendo. Donc ça donne des idées à certains. Et après, les consoles, on sait qu'il y a des Mega Drive mini qui arrivent aussi. Les micros s'y mettent. On avait déjà eu des choses, je crois, en Spectrum. Il y a quelques temps, il me semble qu'il y avait eu des machines Spectrum qui avaient plus ou moins...
ZX81 mini.
Ouais, qui étaient sorties. Et là, surtout, on a le C64 mini qui vient d'être annoncé. Alors, le C64 Mini, c'est quoi, concrètement? C'est un pareil. Alors, c'est là, on reprend la formule de la SNES Mini classique. On prend la machine d'origine, on la réduit en taille, on lui greffe une sortie vidéo HDMI pour que ce soit plus simple à utiliser. On met plein de jeux dedans, on met une manette avec, et puis hop, ça part comme ça. On a une réédition, donc plug and play, d'une machine mythique, on va dire. Donc, le C64 Mini, donc lui, il est prévu pour début 2018.
Sachant, on va le préciser, mais ça vaut aussi pour la SNES, la NES, etc., c'est que c'est des jeux qui, depuis des années et des années, sont disponibles avec des ROM, avec des... Enfin, c'est pas... Avec des émulateurs
bien
et des
sûr,
choses
bien
comme
sûr.
Ça.
Après,
l'objet Art Déco...
On est plus sur un objet, on est content de se payer un objet qui est plutôt respectueux de la machine d'époque, de retrouver les manettes aussi, c'est important, sur la SNES Mini ou la NES, de retrouver le grip, le toucher. Là, sur le C64, on retrouve on a donc une manette dans la boîte qui ressemble au Pro 5000, 1000, c'était une manette indestructible de l'époque. Moi, j'en ai une, c'était increvable. Elle fonctionne encore.
Même sur Summer Games.
Même sur Summer Games, c'était vraiment incroyable. Donc, je ne sais pas si ça va être la même solidité. Donc, début 2018, il y aura 64 jeux à l'intérieur. Donc, des classiques, hein, du Impossible Mission de Epic, du Winter Summer Games, du Cybernoid, de Avenger, Firelord. Donc, 64 jeux avec plutôt des... J'ai pas vu, j'en vérifierai. Il y a 64 jeux, j'ai pas toute la liste sur moi. Il y a pas mal de choses, donc après il y a un tri à faire effectivement. On est sur des jeux C64, on n'est pas sur de la Super NES, donc on est sur des jeux plus anciens, avec des réalisations qui ont peut-être moins bien vieilli pour certains. Je pense que voilà, l'épreuve de l'âge va être plus difficile sur certains titres en termes de maniabilité, etc.
Passage en grande télé aussi, hein, ça va peut-être baver un petit peu.
On va sortir ça sur son écran géant, le C64, ça va être peut-être plus difficile que de la Super NES. Les pixels ne sont pas forcément aussi heureux. Donc sorti début 2018, moi j'ai vu un prix de 70 livres en Angleterre sur le site Eurogamer.
C'est hyper cher.
Donc ça sera peut-être sous les 100 euros j'imagine en France. On n'a pas de prix encore je crois français pour l'instant. Alors moi je regarde toujours tout ça de très loin quand c'est annoncé, puis je finis toujours par craquer avant que ça sorte, parce qu'à un moment bah voilà, on craque parce que l'objet a l'air plutôt mignon. Donc c'est vraiment une miniature du modèle C64 d'origine, et puis t'es un peu boursouflé etc, mais donc modèle réduit. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on aura donc 64 ROM, on aura des filtres graphiques comme on a sur les consoles Nintendo actuelles, et puis on aura deux ports USB, dont un pour brancher une deuxième manette, et surtout un clavier USB, ce qui a priori devrait nous permettre de pouvoir programmer.
Parce qu'il n'y aura pas les petites touches qui seront sur la reproduction.
Ça serait un faux clavier, c'est un clavier. C'est une console en fait. Hein. Oui, ça se vend comme une console plug and play. Donc c'est quand même le but, c'est qu'on puisse. Parce que sinon il faut taper les routines pour envoyer les jeux, pour les charger. C'est pas forcément. Donc a priori ça sera vraiment calibré comme une console, mais avec possibilité de s'amuser comme avec un micro.
On va faire du basique. Parce que moi c'est là où j'ai appris à faire du basique sur comment. 64.
Sur le C64. Ouais. Alors, ça commence à faire du monde sous la télé, hein, entre la Super NES Mini, le C64. Donc, moi, je risque sûrement de craquer. Alors, moi, j'aime le C64, même si moi, j'étais plutôt team Amstrad à l'époque. Donc, je ne serais pas contre, moi, une GX4000 remplie de jeux Amstrad. Ça serait bien aussi qu'on se penche. Et d'ailleurs, c'est Retro Games, l'éditeur qui travaille dessus, qui annonce qu'ils ont d'autres choses dans les cartons, si ça fonctionne bien. Alors, a priori, eux ont des licences Commodore. Donc, peut-être qu'un jour, un Amiga... une console Amiga plug and play, ça serait...
un 386 DX40 mini.
Faites-moi une console Amiga, ça serait terrible. Genre un CD32. Un CD32 HDMI, ça serait... Ou un CD-TV, ça serait terrible. Donc, en tout cas, affaire à suivre, on en reparlera. Ouais.
C'est bien parti, malgré tout. Hein. Si ça marche, il n'y a aucune raison qu'ils s'arrêtent en si bon chemin.
Je pense, oui.
J'ai oublié une précision avant de commencer avec le premier jeu. Monsieur Fall de TrickTrack.net, l'organisation de ce premier numéro a été un poil chaotique, donc voilà, j'espère que Monsieur Fall sera de retour parmi nous dès la semaine prochaine. Mais enfin, en tout cas, on vous donne des nouvelles. Bon, bah, c'est le moment, on va commencer avec des jeux où on va pas forcément rester très longtemps, mais on va commencer avec une des très bonnes surprises et de l'E3 2017, hein, qui est un jeu qui a fait sensation lors de l'E3 2017, avec les larmes de David Soliani. C'était Mario et les lapins crétins. Donc mariage, rencontre inattendue entre l'univers de Mario et l'univers des lapins crétins, qui donne un truc absolument inattendu aussi, qui est une sorte de XCOM pour débutants, ou enfin voilà, une introduction au tactical. Je vais vous laisser la parole, après, mais Franz.
Alors effectivement, ce qui est pas mal, c'est que moi, par exemple, je connais pas du tout, j'ai jamais joué à XCOM de ma vie avant de jouer à ce Mario les lapins crétins. Donc effectivement, je confirme que c'est une très bonne introduction au genre. Voilà, c'est très accessible. Et du coup, ça rappelle, moi, ce que j'ai apprécié dans le jeu, c'est que ça rappelle plusieurs trucs. Ça rappelle à la fois la grande période de la collaboration entre Nintendo et Rare, où Nintendo confiait ses licences à un développeur occidental qui pouvait s'en emparer. Donc là, c'est le studio milanais d'Ubisoft du coup qui a apporté donc les lapins crétins. Effectivement, un mariage un peu inattendu, mais qui au final fonctionne pas mal. En plus, bon, par respect pour l'univers Nintendo, les lapins crétins ne sont pas si envahissants que ça dans le jeu. Donc, voilà. Et donc, il y a cet aspect-là. D'ailleurs, on retrouve la musique, le compositeur des musiques de Conker's Bad Fur Day. Donc, il y a vraiment cet esprit Rareware dedans. Et aussi, ce côté, on pense aussi, moi, je trouve, à Super Mario RPG, donc, qui avait été développé par Squaresoft sur Super Nintendo. On retrouve un peu cet aspect plastique dans le design et tout. Et c'est pareil, voilà, Super Mario RPG était une très bonne introduction, simple, et efficace au RPG à l'époque. Et donc voilà, là je pensais à la même philosophie qui est derrière, et je trouve que c'est pour le coup une belle réussite dans le genre, quoi. C'est vrai que c'est un jeu, moi je trouve, très plaisant à jouer. C'est très simple, en même temps il y a beaucoup de profondeur, je trouve, dans la façon d'aborder les situations, etc.
Avec une courbe de progression très lente. Ouais. C'est-à-dire avant, c'est vrai pour les gens qui sont un peu habitués aux tactiques, avant d'avoir des niveaux un poil qui donne un peu de fil à retordre, il faut quand même quelques heures de jeu. Hein, ouais, mais du coup, ça permet de.
C'est bien amené dans le jeu.
Ouais. Ouais, ouais. Et il y a des moments qui deviennent quand même bien durs. Hein. Moi, je me suis retrouvé bloqué bien sur certains combats, vraiment bien bloqué.
Pour moi, c'était pas gagné ce mariage, parce qu'on est quand même sur des univers graphiques bien identifiés, chacun de leur côté. Enfin, Mario, les lapins, ils ont chacun leur monde et tout ça paraissait étanche. Et c'était pas gagné que ça marche, que la rencontre fusionne et que ça marche bien. Et d'autant plus dans un genre de jeu comme celui-ci, qui est quand même pas forcément le jeu le plus populaire, le plus facile d'accès. On aurait pu imaginer un jeu de plateforme lambda avec deux licences plaquées dedans et puis basta. Et non, en fait, c'est là, je trouve que la réussite, elle est d'abord visuelle. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Comme tu dis, les lapins sont pas envahissants. On sent qu'il y a un respect des... Chacun reste un peu à sa place et finalement, ça fonctionne bien. Les deux sont bien entremêlés. Et puis surtout, le gameplay, moi, je trouve que... Pareil, j'ai un peu joué au XCOM, le revival XCOM qu'il y avait eu sur console, notamment il y a quelques années, qui était justement aussi plus ouvert, plus accessible avec la 3D, etc. Il y avait eu un effort aussi de... Et là, on retrouve cet effet-là, mais encore plus facile d'appréhension. Je trouve que même quelqu'un qui n'y connaît rien, le jeu prend vraiment par la main et donne vraiment les bases du gameplay, mais très vite... On a un vrai jeu derrière, on n'est pas seulement sur un jeu d'initiation qui se terminerait rapidement, c'est-à-dire que très très vite, comme tu disais, il y a une courbe d'apprentissage, et puis la difficulté commence à s'installer, on commence à avoir des petits moments plus difficiles, on peut être tenté de passer en mode facile pour passer certaines épreuves, et il y a toujours cette faculté, cette option de facilité lorsqu'on commence un niveau qui permet à un joueur qui aura des difficultés de dire bon, je peux le faire en mode plus facile, et c'est beaucoup plus abordable. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une force. Et puis, il y a tout le lore aussi des personnages, les ennemis, etc. Enfin, il y a vraiment un travail, je trouve. Et tout ça est harmonieux entre les univers Nintendo et des lapins crétins. Et je trouve que c'était vraiment pas donné, surtout dans cette typologie de jeu qui est quand même très, très particulière et pas facile à orchestrer.
Oui. Kevin,
Oui, je suis assez d'accord, en fait, parce que moi, j'avais de gros doutes, effectivement, au sortir de l'E3 où on avait pu essayer le début du jeu. Et j'avais un doute presque plus sur philosophique sur le jeu. Je me demandais où est-ce qu'ils allaient avec ça. Je ne savais pas à qui ça s'adressait. Je ne savais pas si c'était pour les débutants, pour des joueurs confirmés qui vont faire du XCOM ou du Disgaea. Je trouvais que c'était un peu comme ça, bancal, en équilibre sur un fil... Enfin, c'était pas clair. Et donc, moi, j'ai pas rejoué parce que, franchement, c'est pas des univers qui m'intéressent, c'est même pas forcément un genre de jeu qui m'intéresse. Mais je suis agréablement surpris de voir tous ces retours et de voir à quel point, effectivement, il y a une courbe de progression et que tout le monde s'y retrouve. Parce que moi, je sais qu'à la rédaction, je vais avoir des fans de Nintendo qui vont adorer le jeu, qui vont le trouver drôle. Et Sophie, par exemple, qui, avec son enfant, je sais qu'il aime bien y jouer aussi. Donc, ça veut dire que ça peut s'adresser à des trentenaires et à des enfants. Ils ont réussi. C'est tout ce qu'on peut dire.
Et c'est aussi, il faut quand même le rappeler, que c'est le retour dans le jeu vidéo des Lapins Crétins, parce que ça fait longtemps. Les Lapins Crétins est une licence qui avait commencé avec la Wii, on se rappelle, Rayman et les Lapins Crétins, et qui a eu plutôt une vie dans les mini-games. Enfin, même si c'est eux aussi qui ont lancé Just Dance, c'était un mini-jeu. C'était un mini-jeu des Lapins Crétins qui a donné ensuite Just Dance.
Oui, les jeux sur mobile, etc. Mais puis il y a eu la série animée.
Et surtout, il y a eu la série animée avec trois saisons diffusées rediffusées à l'infini sur France Télévisions, mais les trois séries qui ont finalement qui ont réussi à développer une mythologie lapin crétin. Enfin, c'était pas évident au départ, quand même. On en était loin dans les jeux vidéo où on était face à des créatures un peu horripilantes comme ça. Mais dans la série, en trois saisons, ils ont réussi à développer une mythologie qu'on retrouve dans ce jeu-là, c'est-à-dire que c'est des lapins crétins qui viennent beaucoup plus de la série que des anciens jeux lapins crétins, la machine à laver, tous les codes, les déguisements. Un des éléments de la mythologie lapin crétin que je préfère, c'est dès qu'un lapin change de déguisement, il change de personnalité. C'est-à-dire il suffit qu'un lapin ait une perruque blonde pour qu'il change de sexe.
Il y a comme ça des règles
de lapin crétin. Et finalement, je trouve qu'effectivement, ça se marie très bien.
Et puis, il s'inscrit dans une réussite de la Switch depuis son lancement, il faut le dire. C'est aussi un jeu, c'est un éditeur tiers qui développe un jeu avec Nintendo et ça marche. Et ça s'inscrit dans une belle histoire de la Switch depuis le lancement, qui cartonne en termes de vente.
Elle confirme.
Et aujourd'hui, ce jeu, qui était quand même un peu casse-gueule, dans le fond, comme tu disais, dans le design, dans l'idée, ça marche. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que depuis le lancement de la machine en mars, oui, tout se passe bien pour la Switch. C'est chouette.
Tout se passe bien, ça se passe de mieux en mieux. Les jeux arrivent, la scène indé répond présente.
Les tiers sont là, les indés, les tiers.
Le tiers. Je sais pas. Il y a, à part Ubisoft, je sais pas qui va y aller.
Quand même à FIFA.
Il
faudra voir comment il marche.
Quand on se rappelle la Wii U, à la fin, c'était un peu compliqué quand même.
Oublions la Wii U.
Voilà, c'est très bien de voir qu'on est parti sur vraiment autre chose. Donc c'est très bien. Et puis si ça motive ce genre de production comme ça. C'est chouette.
Allez, jeu suivant, on reste dans les mascottes historiques du jeu vidéo. Voilà, j'ai essayé de trouver comme ça une progression logique entre les différents jeux. Jeu qui vient finalement, lui aussi, quelque part, de nulle part, assez inattendu, créé par un fan, Christian Whitehead, connu sous le nom de Taxman, un développement qui a débuté en 2015 et une rencontre avec Takashi Iizuka, le boss de la Sonic Team, et ça a donné Sonic Mania. Mania, le retour du hérisson bleu, mais pas par l'équipe historique. Un personnage, une mascotte, la mascotte de Sega, venue contrer justement la domination de Mario à l'origine. On va faire l'historique. Non, on va pas faire l'historique de Sonic. Mais voilà, un personnage quand même qui, contrairement à son concurrent, a connu beaucoup plus de bas, a connu quelques galères dans sa longue vie. Des déboires.
C'est la 3D. Ça a été la malédiction pour Sonic, quoi, vraiment. Enfin, ça a été la 3D.
On pourra s'interroger quand même sur fondamentalement est-ce que les Sonic sont des bons jeux quand même.
Non mais c'est vrai. Si on fait historique, il faut repartir du début et se demander si un bon game design.
Qu'une réponse à Sonic, à Mario, pardon, et du coup avec tout ce que ça emmenait comme aussi contre son.
Non mais on va y arriver peut-être à cette question là, mais je vais encore commencer par toi Franz, ce Sonic Mania.
Bah oui, en fait du coup je peux carrément rentrer par la question qu'on vient de poser, parce que en fait moi Sonic Mania c'est un peu un truc assez personnel, mais moi Sonic c'était un jeu quand j'étais gamin, j'avais un ami qui était fan de Sonic et donc je le regardais beaucoup jouer à Sonic, j'étais très impressionné par le jeu et quand je prenais la manette en main je n'y arrivais pas, je ne comprenais rien et donc pour moi Sonic c'est l'histoire d'une grande frustration et donc quand ce Sonic Mania est sorti, que je trouve absolument charmant graphiquement et tout, je me suis dit allez voilà, ça va être l'occasion, je vais me remettre un Sonic 2D, cette fois-ci ça va être la bonne. Et au début, je trouvais ça très bien, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai quand même vite retrouvé tout ce qui fait le sel de Sonic, mais qui est en fait compliqué à gérer, je trouve. Le jeu qui nous incite à aller très vite et pour nous mettre des pièges, des ennemis au milieu du chemin sur lesquels on perd tous ses anneaux. À la fois, en même temps, alors il incite à aller vite, mais en même temps, c'est quand même beaucoup un jeu d'exploration aussi. Alors ça, c'est très plaisant, mais il faut quand même, ça prend du temps pour le comprendre. Moi, en tout cas, il m'a fallu 20 ans pour le coup, pour comprendre que c'est en fait un jeu d'exploration fondamentalement, quoi. Et donc voilà, en fait c'est un Sonic où je retrouve aussi tout ce qui m'a énervé dedans, donc à la fin je suis pas capable de dire si Sonic Mania est un bon jeu et si c'est sans doute un très bon Sonic, mais je sais pas si les Sonic fondamentalement en fait sont bien, quoi. Voilà. C'est mon problème avec Sonic Mania.
Je suis complètement d'accord. En fait dans un autre podcast, donc dans ZQSD, je faisais une comparaison avec Assassin's Creed, en fait, moi, parce que pour moi c'est le genre de jeu qui repose sur un socle qui ne va pas. Assassin's Creed est brandé depuis le début comme un jeu d'infiltration, sauf que ça n'a jamais marché, l'infiltration d'Assassin's Creed.
Moi j'ai jamais considéré que c'était un jeu d'infiltration.
Ben ouais, mais le problème c'est que c'est un peu ça, je veux dire, tu joues un assassin, etc. se dit que c'est pareil, comme le disait France, tu es dans un jeu qui t'incite à aller vite, sauf que tout ce qui, enfin, tu as des obstacles partout, tu as une gestion des sauts qui ne marche pas depuis toujours, une inertie abominable. Donc voilà, moi je suis d'accord, c'est sans doute un bon Sonic, mais comme Sonic n'a jamais été un bon jeu, bah, c'est pas forcément un bon jeu non plus. Voilà.
Allez Patrick, allez au moins une voix dissonante là-dedans.
Extrême. En revanche, ce qui est sûr, c'est que si on
franchement, je m'attendais pas.
Ce qui fait très mal à Sonic, c'est toujours la comparaison à Nintendo, au canon Nintendo, au gameplay Nintendo, où vraiment, enfin, ça ne vieillit quasiment pas. On peut relancer sur la NES Mini aujourd'hui un Mario, les premiers Mario, ils n'ont pas vieilli. Enfin, je trouve que le gameplay est essentiel et ça fonctionne toujours. Un Sonic, effectivement, on sent que c'est daté malgré tout. On peut dire tout ce qu'on veut, et ce gameplay est quand même très particulier. Moi, ce qui m'a plus dérangé, c'est ce côté, on sent que c'est un jeu calibré pour, c'est un fan service. Enfin, vraiment, il est bourré de clins d'œil. Alors ça fait plaisir quand on est fan. Bah, pareil, je suis pas un fan absolu de Sonic. J'ai joué sur Mega Drive à l'époque parce que c'était aussi un côté novateur. Il y avait ce défilement de une vitesse de fou. Ah, oui. C'était une vraie performance techno et qui remontrait aussi ces gars. Ils attendaient. Nous, on a aussi cette capacité à innover à notre façon. Je pense que ça a moins bien vieilli que les Mario, encore une fois.
Après, graphiquement, faut dire, même, tu vois, Sonic Mania a une fidélité totale graphiquement à ceux de Mega Drive, et ça rappelle quand même qu'ils étaient quand même très beaux déjà à l'époque.
Enfin, sauf pour le coup, il y avait un côté péchu entre les trois premiers Sonic, il y a un vrai truc visuel. Après, mais ce côté fan service qui me dérange un petit peu, je vais faire une comparaison qui n'a rien à voir, mais parce que je pense point and click.
On a déjà eu Assassin's Creed, je pense que peux y aller en termes de comparaison.
Moi, je pensais, j'y jouais et en même temps, je refaisais Fimbleweed Park de Ron Gilbert, qui est un point and click fait comme à l'époque.
Tu l'as refait sur la Switch?
Non, pas encore. Je le refais de fois. Bon, j'adore ce jeu, mais voilà, c'est un jeu fait comme en 87, mais fait aujourd'hui avec plein de clins d'œil. Et puis, il y avait surtout, et c'est aussi parce que le genre s'y prête plus. Mais c'est pour ça. Le genre se prête plus aussi à la côté réflexion sur le genre plein de petits clins d'œil sur tout ça. Sonic, il n'y a pas ce côté décalage. Et j'ai vraiment l'impression, parce que c'est pas le même médium, on parle pas du même médium non plus, mais il y a ce côté, j'ai l'impression...
très premier degré.
Mais, exactement. Ouais. Moi, c'est ce côté premier degré, fan service pur et dur, genre je vous balance tout ce qui va vous faire plaisir, sans peut-être vraie réflexion sur le genre. Alors, c'est vrai que ça s'y prête moins qu'un Fimbleweed Park, qui est plus bavard, plus pouvoir mettre en perspective son genre et l'histoire de son genre, etc. En même temps, et puis, quoi qu'on en dise, moi, j'ai eu plus de plaisir à jouer à celui-ci qu'au dernier en 3D, moi, j'arrive pas à aller. Sonic 3D, j'ai vraiment un blocage. Je trouve que le personnage a beaucoup de mal à fonctionner en 3D. Je crois qu'il y en a un nouveau qui arrive, on verra, peut-être Et en même temps, j'étais un peu triste en me disant, mais c'est triste, finalement, ce Sonic Mania, c'est peut-être le meilleur Sonic depuis 15 ans, ou je ne sais pas combien. C'est triste. Ce personnage, il est resté bloqué à l'époque avec tout ce que ça veut dire comme, comme côté rugueux, comme côté un peu ancien, un peu. Et c'est en même temps triste de se dire que ça, c'est peut-être le meilleur Sonic depuis longtemps. Tu vois, Mario, il a évolué. Mario, on l'attend là en fin d'année. On sait que ça va. Enfin, on attend beaucoup de choses de Mario parce que il a su évoluer, il s'est remis en question. Et puis. Bah Sonic, ouais, il y a un côté, je sais pas.
Il est coincé.
Il est un peu coincé dans son époque.
En maison de retraite, il y a un côté, je sais pas, il y a un truc qui me dérange.
c'est un peu pathétique en fait.
C'est sympa à jouer et on se dit bon.
Ah non, il y a un côté vraiment pathétique là-dedans. Clairement. Même dans le côté bancal, le fait de reprendre des mondes qui existaient avant, d'en mettre des nouveaux mais qui arrivent après, genre on les assume pas trop.
C'est pas très préparé à l'avance, silence on joue. Faut bien vous mettre. Je m'attendais pas. Même, en plus, j'ose même pas le dire, du coup. J'ose même pas le dire que j'ai détesté ce film. Carrément. Alors, moi, ça fait partie...
En crescendo, en fait.
Non, mais j'ai jamais réussi. C'est juste, je ne comprends pas cette manière de jouer. Et effectivement, le truc... Moi, j'ai toujours considéré que Sonic, il fallait aller assez vite pour faire des boucles.
C'est ça,
on est
d'accord.
Non, mais c'est vrai. Ma perception de Sonic, c'est qu'il fallait aller tout droit, hyper vite. Et donc, du coup, pour moi, là, tu viens de m'apprendre que c'est un jeu d'exploration. Parce que moi, je me suis toujours demandé si on avait le droit d'aller en arrière.
Ça va en haut, en bas et tout, t'as plein de places
à circuler. C'est
pas la sensation que c'est conçu pour ça, je suis d'accord. C'est un vrai problème.
Il n'y a pas d'incitation à faire ça en fait.
Voilà.
Et pourtant, c'est ça qu'il faut faire.
Dès le départ. Dès le départ,
en fait. En fait, j'aurais jamais rien compris à Sonic.
Il y a Sonic Forces qui arrive en 3D. Je sais pas, on verra.
Il y a toujours des gens qui se disent ça y est, cette fois-ci, ça va être le bon Sonic en 3D.
Peut-être que ça y est, la 3D, non. On en parlera plus.
Bon,
joueurs.
Statistiquement, il y a forcément des fans de Sonic qui nous écoutent, qui nous regardent.
Qui nous insultent.
Vous avez le droit.
Vous avez le droit. Sonic à un moment.
On va pas non plus. On va continuer à se faire insulter parce que autour de... Voilà. Alors, on pourrait lancer un débat. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps du tout. Mais on pourrait lancer un débat. Est-ce qu'il faut être bon à tous les jeux vidéo? Est-ce qu'il faut être bon à tous les jeux vidéo pour pouvoir en parler? Est-ce qu'on peut encore parler de Cuphead après y avoir joué et après avoir constaté, c'est le cas de toutes les personnes autour de cette table, qu'on était des quiches. Mais on va en parler quand même, parce qu'on va en parler quand même, parce que c'est l'actu, parce que c'est peut-être un des plus beaux jeux de cette année quand même. C'est peut-être pour ça qu'on est hyper frustrés. Cuphead. Cuphead du studio MDHR, création de Chad et Jared Moldenhauer. Petite histoire moi, que j'aime beaucoup, c'est ils voulaient faire un jeu inspiré des dessins animés des années 30. Dès les années 2000, ils se sont lancés dans la production, ils ont vite abandonné les contraintes techniques et tout ça, et ils ont relancé en 2010 après le succès de Super Meat Ball. Super Meat Boy. En même temps, c'est un peu ça. Bref, après, Super Meat Boy, ils se sont dit, bah voilà, on peut essayer de faire un jeu avec notre idée. Première présentation, on le sait, à l'E3 2014. C'était censé être imminent
c'était
à l'époque.
Xbox, c'était la Xbox One, non? C'était au moment de la. Ah, ou un an après, peut-être, alors?
C'était déjà sorti.
Ouais, donc c'était une année après.
Et donc voilà, c'était censé être le jeu indé un peu attendu, présentation qui avait fait parler. Et puis bah, de 2015, 2016 et 2017, enfin voilà, ce sera pas reporté à 2018. On l'a vu, ça vient d'arriver, Cuphead. Voilà. Allez, qui commence, Patrick?
Il faut tout de suite resituer les choses. Enfin, pour moi, c'est un des plus beaux jeux que j'ai vu tourner sur cette génération de machines. Enfin, moi, c'est quand même hallucinant. Tu disais qu'il y avait eu que les développeurs avaient attendu d'avoir, je pense, des machines capables de faire tourner ça. On est sur un jeu en 2D, mais d'une richesse visuelle. On resitue donc le jeu, donc suite des personnages dans une ambiance de dessin animé des années 30. Alors c'est quelque chose qu'on avait déjà un peu croisé dans Mickey Mania. Je sais pas si vous avez connu ce jeu de plateforme qui était sorti sur Super NES, sur PlayStation, je crois au tout début, où il y avait un niveau comme ça.
Steamboat Willie, exactement.
Qui reprenait un peu cette idée. Mais là c'est ça, mais puissance 1000. C'est d'une finesse visuelle. Il y a une patine hallucinante. J'ai rarement vu ça. Moi j'étais scotché devant mon écran. Même sur un écran large, c'est magnifique. Il y a une finition des bruitages, des musiques, des effets visuels. Le petit filtre d'écran abîmé, il n'y a rien à redire. Par contre, il y a un prix à payer, c'est la difficulté qui est retorse. C'est une leçon d'humilité hein, quand on lance Cuphead. Vraiment, c'est... On apprend qu'il faut s'y mettre et que ça va être très très dur. C'est vraiment, je pense, dessiner un public averti. Il faut vraiment s'accrocher.
Donc il y a un décalage entre l'aspect visuel.
Très mignon, c'est vrai qu'il est très mignon. On peut se dire, tiens, ouais, c'est un petit jeu un peu à la Disney, peu dans la lignée des Aladdin et tout ce qu'on a pu connaître.
Et cette inspiration finalement du dessin animé des années 30, qu'il faut le rappeler, c'était des tout débuts de Disney et c'était des dessins animés cruels aussi. Qui portent leur dose de sadisme, les Félix the Cat et les autres,
les
ils étaient violents.
Des 30 étaient violents
Et finalement, c'est cet esprit-là qui a été.
Le jeu est impitoyable. Moi, je ne sais pas si ça existe le terme de manic platformer. J'ai eu ce mot-là en jouant hier. C'est impitoyable. Mais alors, il y a ce côté, alors c'est étrange. Moi, j'ai un peu développé une drôle de relation avec. C'est à la fois, il me foutait des baffes pendant que je jouais. C'est difficile. Il y a des niveaux où on morfle. C'est même physique. Moi, la manette, je la tenais comme ça, elle commençait à craquer de tous les sens. Et impossible de m'arrêter, parce que le jeu, il est hypnotisant, je trouve, dans son visuel, dans son... Enfin, vraiment, je trouve que moi, je ne me suis pas lassé du cachet visuel du jeu, de son ambiance. Et puis, surtout, il a un gameplay qui est très dur, mais qui est juste. Il n'y a pas de défaut. Moi, je n'ai pas trouvé de défaut.
Le mapping, peut-être des touches...
Moi, je n'ai pas eu de défaut qui m'ont fait dire, bon, là, c'est le jeu qui est en train de me planter. Non, moi, à chaque fois, je me suis dit, non, c'est moi qui ai mal sauté.
Ouais, exactement. Alors déjà, il y a le mapping des touches.
Enfin, moi, je n'ai pas retouché. J'ai pas eu vraiment de difficulté avec ça.
A priori, ça marche.
Mais moi, distribution des touches. Ouais.
Normalement, on peut les reconfigurer, mais moi, quand j'ai essayé, ça ne marchait pas. Je ne suis pas passé par là.
Le tir plus le saut plus le dash.
Surtout sur certains boss,
et
il faut tirer.
C'était un problème. Moi, j'aurais aimé avoir des extensions à mon pouce. C'était un peu compliqué.
Là, encore une fois, si on reprend le référent Nintendo, qui est toujours quand même un référent dans le jeu de plateforme, on est à l'opposé du jeu Nintendo, qui a cette courbe de progression, qui nous apprend les règles du gameplay peu à peu, et qui va nous emmener vers une progression où on va peu à peu se servir des facultés du personnage. Là, non. C'est-à-dire qu'on lance le jeu. Moi, dès le début, je me suis pris des mandales, mais dès les premières parties. On est tout de suite humilié quand on lance le jeu. Mmh. Et après, où on passe ce cap et on se dit, bah non, parce que j'ai vraiment envie d'avancer. Le jeu, il a un charme fou et j'ai vraiment envie de m'accrocher, quitte à en prendre plein la tronche ou à passer la difficulté en honteusement en mode médium, je crois, pour passer certains
passages. C'est un peu régulier.
Et là, on n'aura pas la fin. Après, on ne peut pas vraiment débloquer le jeu. Mmh. Mais enfin, il a un tel cachet, ce jeu.
Ouais, mais après, enfin, j'ai pas le sentiment que ce soit beaucoup plus dur que certains jeux qu'on pouvait faire il y a une vingtaine d'années. Le jeu est exigeant,
il renoue peut-être avec les codes de gameplay.
Après, je pense que la frustration vient vraiment de ce décalage où on se dit, ah, c'est tellement beau qu'on a envie d'en voir plus, et effectivement, on peut bloquer sur un boss assez vite. Ouais. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a aussi trois types de niveaux. Donc, au tout début, c'était un boss rush. Donc, c'était des combats de boss qui pouvaient durer 2, 5...
Le premier concept, ouais, voilà. C'était ça.
C'est ça, ce qui est resté, mais Microsoft avait estimé que c'était peut-être insuffisant, donc ils ont rajouté des niveaux.
C'est pas mal d'avoir des niveaux...
Les boss qui sont intéressants.
Ouais, les niveaux run and gun...
Moi, je trouve que si, ça amorce une respiration.
Parce que c'est plus simple.
Mais justement, ça peut être salvateur.
Moi, j'ai vu en apnée, moi, les niveaux.
Les niveaux run and gun, ça va. Après, il y a les mausolées, où là, c'est une sorte de presque de tower defense, plateforme. Donc ça n'a pas grand intérêt. Donc non, l'intérêt, c'est vraiment le boss rush. Là où je peux comprendre qu'il y ait une frustration, c'est pas tant une question de difficulté, c'est une question d'épuisement nerveux. C'est-à-dire qu'en fait, il se passe tellement de choses dans le jeu, il y a tellement de bruit, il y a tellement d'effets visuels. Moi qui ai beaucoup de mal à faire deux choses à la fois, quand je vois qu'il faut que je tire sur un boss qui est en l'air tout en essayant d'esquiver des trucs qui arrivent au sol, moi j'arrive pas. Et c'est épuisant en fait. C'est-à-dire que... Alors que dans l'autre jeu difficile de cette génération contemporain, on va dire les Souls et Bloodborne, où tu apprends de chaque défaite et tu reviens plus fort, plus tu recommences et moins tu arrives en fait, parce que tu vas être bombardé d'effets.
Ouais, ou tu vas louper un truc que tu pensais réussir à chaque fois et tu vas le louper plusieurs fois.
C'est vrai que la courbe d'apprentissage, c'est plus une sorte. Il faut arriver à être zen, à arriver à se concentrer. C'est pas du tout le même réflexe. Mais pour moi, c'est absolument pas un défaut, hein, je tiens à le dire.
En fait, il te renvoie un miroir de toi, ce jeu, quand tu joues. Non, t'es vraiment face à. Il y a un côté, je trouve que tu.
C'est magnifique, c'est hyper. Moi, j'aime beaucoup. Alors, tu avais tout à fait raison de dire en tout cas, moi, je suis complètement nul à ce jeu. Je suis un boulet pour mes confrères et mes camarades quand je joue avec eux, parce qu'ils doivent toujours essayer de me ressusciter. De temps en temps, ils me disent, vas-y, tant pis pour toi, machin. Alors, moi, je m'envole comme ça et je regarde la fin du niveau.
On peut jouer en coop, parce qu'on peut jouer.
On peut jouer en coop, oui.
Il y a
Cuphead
et Nugman.
Voilà.
Et on a les mêmes vies, ou comment ça se passe?
Non. Chacun a sa propre vie. Par contre, les boss ont beaucoup plus de HP. Donc, bizarrement, on pourrait penser que c'est plus facile, mais un deuxième personnage rajoute encore plus de confusion à l'écran.
Projectile, quand t'as des tirs.
Mais c'est hypnotique en fait. Ouais. Moi, je trouve ça incroyable. C'est vrai que.
Moi, c'est longtemps que ça m'a pas manqué la touche auto-fire qu'on avait dans les années 80. Et ça me manquait presque de me dire pourquoi j'ai plus cette touche. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce manque.
C'est vu qu'on passe le temps appuyé sur la touche. C'est quoi l'intérêt de garder le pouce appuyé sur la touche de tir alors que.
C'est c'est un inconfort aussi, c'est un effort de, de gérer avec les sauts, parce qu'on est vraiment obligé parfois que le doigt de sauter sur certains boss, de sauter, tirer en même temps, enfin tout le temps en fait,
on
fait que ça.
Un triple pouce.
Et c'est vrai qu'il faut réagir en, en quart de seconde.
Et France, même, avec,
moi,
même expérience.
Moi j'ai fini le jeu en 2 heures. C'est pas vrai.
C'est toi,
je comprends pas mes camarades. Non, moi j'ai battu un boss en simple et j'ai pas réussi à passer un seul niveau de Run and Gun. Donc voilà, je suis pitoyable sur ce jeu.
On en est là, c'est vrai qu'il
est... Alors ce qui est sympa, c'est qu'au début, on a le choix, on peut essayer plusieurs niveaux et tout, on n'est pas obligé de passer un niveau pour accéder.
On a accès à trois boss,
deux niveaux de Run and Gun dès le début, donc on peut s'essayer à différents trucs. Et il y a une petite boutique où on peut acheter des armes et tout. Bon.
Mais très vite, on comprend que de toute façon, notre destin nous attend.
Mais non, ce que je trouve du coup un peu regrettable à titre personnel, c'est que le jeu est magnifique et moi, je ne profite pas de cette... J'ai du mal à profiter de cette beauté. Avec tout l'effort intellectuel que ça me demande pour gérer ce qui se passe à l'écran. Quoi. Alors, à la fois, le jeu est hyper limpide parce que même s'il est entièrement dessin animé, on distingue très bien les parties du décor avec lesquelles on peut interagir, les ennemis et tout. Donc, il n'y a jamais d'ambiguïté ou de piège. Ouais. Quand on sait qu'on peut sauter sur tel truc, on sait qu'il ne faut pas aller à tel endroit, machin et tout. Mais je n'arrive pas à m'imprégner, je n'arrive pas à profiter de cette beauté.
Parce qu'on souffre. On
parce que voilà, je suis tout concentré, uniquement concentré sur ce que j'ai à faire. Et donc, je suis... Ça rend
la beauté du jeu
un peu inaccessible, je trouve.
Ce qui est très drôle, quand nous, on a vraiment beaucoup joué en coop, et notamment avec Yann, qui vient souvent dans l'émission, et il y avait toujours, en fait, deux temps. C'est-à-dire, on est sur un boss, ils ont toujours plusieurs formes. En gros, il y en a 3, voire 4, voire plus. Et à chaque nouvelle phase, on fait « Oh, qu'est-ce que c'est beau !» Alors, on s'extasie. Et après 2 ou 3 game over, le même boss, on peut l'insulter de tous les noms, etc. Donc, c'est assez marrant comme ça, ce petit basculement où on peut être émerveillé et horrifié en l'espace de 5 minutes.
Moi, ce qui m'a vraiment... je suis skill group que vous. J'ai cette même frustration qui est une vraie, très, très grosse frustration sur Cuphead de souffrir autant pour et avoir vraiment envie de jouer, de découvrir les autres niveaux, de débloquer comme ça ce jeu qui ne permet rien. Moi, ce que je regrette un petit peu, mais en fait, on peut pas lui en vouloir. D'une part, on peut pas en vouloir aux gens de Cuphead, c'est un choix.
C'est un choix de
game design. Donc, c'est soit tu leur en veux d'avoir fait ce jeu, soit tu... tu peux pas leur en vouloir.
Juste mettre un avertissement, attention, il faut quand même un certain niveau de...
mais par contre, moi, dans mon rapport au jeu un petit peu compliqué, on va dire, au jeu Die and Retry, je sais que Super Meat Boy, j'ai eu un rapport hyper serein avec ce jeu-là, où la mort, pour moi, faisait partie... c'était vraiment un Die and Retry qui avait incorporé la logique de Die and Retry dans son gameplay. Ça repartait vite, on finissait par apprendre les niveaux par cœur, et puis et c'était un jeu de rythme plus que de coordination.
Mais
le problème, c'est qu'il y a du rythme et il y a une sorte de skill de coordination, de savoir où, comment faire. Et du coup, moi, j'ai l'impression que c'est au-delà que même si je m'entraînais, même si j'y passais des heures, j'y arriverais pas. J'ai un problème humain, j'ai un problème de branchement dans le cerveau qui ne me permet pas de... Donc voilà, c'est cette frustration, mais encore une fois, on ne peut pas leur en vouloir, le jeu est...
Le même rapport que j'avais eu avec Shadow of the Beast il y a 25 ans, où pareil, on était...
En vouloir au développement.
Justement, c'est là la grande différence, c'est que Shadow of the Beast, on morflait pour jouer, mais on avait un jeu magnifique à l'écran, donc on s'accrochait. En revanche, il a mal vieilli. On sait qu'aujourd'hui, quand on lance Shadow of the Beast, on se rend compte qu'il y avait des vraies carences de gameplay, de game design. Si, moi, ça m'arrive. Mais Cuphead, c'est un cas complètement différent, parce que le gameplay est bon. On sent qu'il est bien huilé, qu'il est vraiment jouable, ce jeu. Par contre, il est très exigeant. Voilà. Mais quel charme, ce visuel. Je me suis dit, CinemaWare fera encore des jeux aujourd'hui, c'est le genre de titre qu'il pourrait faire, tu vois, avec ce côté référence des années 30.
Pour finir, c'est un très très bon jeu de Twitch.
Ah oui, ça c'est sûr.
C'est un très bon jeu à regarder. Sur YouTube, c'est formidable.
C'est clair.
Tu prends le mec bon ou la nana bonne et tu
en jouant, à mon avis. Je sais pas si tu peux parler et jouer en même temps.
Il y a des hurlements. De toute façon. Parce que même les gens bons, ils meurent. Ça, c'est une leçon. C'est une leçon de Cuphead. Allez, on va accélérer un petit peu pour cette fin d'émission si on veut rentrer dans les clous, parce qu'il nous reste encore 4 jeux à traiter. Mais oui, mais il faut avoir de l'ambition dans la vie, hein, autrement on s'en sort pas. On va commencer avec le blockbuster, le blockbuster de cette fin d'été, de cette rentrée, le nouvel épisode de jeu de Bungie, Destiny, avec Destiny 2.
Nous sommes de moins en moins nombreux.
Nous arrivons à peine à nous protéger, et je ne vous parle pas des survivants. Nous connaissons l'objectif.
S'approcher de Gaulle, lui mettre une balle dans la tête, et puis peut-être manger un sandwich.
Destiny 2, qui arrive donc après le premier Destiny, après une foule de DLC qui avait amélioré, qui avait énormément apporté à ce jeu du studio Bungie par Activision, c'est ça, édité par Activision, et surtout qui a été un des premiers grands jeux à adopter cette nouvelle doctrine du Game as Service, donc de sortir un jeu et de l'entretenir comme ça sur la durée, essayer de garder ses joueurs, de ne pas de garder une communauté active en proposant des nouvelles choses de manière régulière, mais il faut passer à autre chose à un moment. Il faut marquer le coup et passer à un deuxième épisode. Donc, grosse sortie, gros travail de chez Bungie. Enfin, je suppose, parce que je n'y ai pas joué. Mais toi, tu y as joué, France.
Bah oui, alors, le premier Destiny, c'était marrant, c'était censé être le gros blockbuster de son époque. Et en fait, c'est vrai qu'il avait eu un lancement un peu compliqué par rapport aux ambitions initiales d'Activision et Bungie. Et donc, c'est vrai qu'après, le jeu s'est fait une belle communauté en fait, de fans. Il y a plein de gens qui le défendent corps et âme. Et donc, en fait, ce Destiny 2, alors, c'est vraiment, fondamentalement, c'est pareil que Destiny 1. Enfin, vraiment, les ennemis sont les mêmes. Il y a très peu de changements. C'est juste des nouveaux environnements. Mais sinon, au niveau du feeling, c'est strictement la même chose. Donc, moi, je trouve ça assez agréable au niveau des tirs et tout. J'ai toujours bien aimé le feeling. Après, voilà, je pense qu'ils ont conçu aussi le début pour qu'on rentre plus facilement. Je pense que les gens qui n'ont jamais joué au 1 rentreront très facilement dans le jeu parce que vraiment le début est conçu pour qu'on soit bien accompagné, etc. Donc après, moi je vois pas trop quoi dire d'autre. Si on a bien aimé Destiny 1, on aimerait bien Destiny 2. Si on n'a pas aimé le 1, je vois pas trop ce qui peut changer dans le 2.
Parce que justement, moi pour le coup, j'avais pas trop joué au 1, ça m'intéressait pas. Mais si tu peux avoir un problème fondamental avec le fait que ce 2 existe, tout simplement en fait.
Ah oui, alors ça, parce que c'est la question de
par rapport à ton lancement, tu vois, sur le côté jeu service, c'est eux, ils voulaient vraiment faire un MMO qui aurait dû avoir des extensions, etc. Là, ils sortent un 2, donc déjà...
Oui. S'ils avaient sorti un World of Warcraft 2 5 ans après le premier.
Donc déjà, là, il y a un problème, surtout pour faire quelque chose qui, au final, n'est pas si différent. Alors effectivement, ils ont revu des décors. Ça aurait pu être des DLC. Le jeu est assez beau, même si bon, ça reste englobé dans la direction artistique Made in Bungie, donc ça reste un peu fluo, violet, un peu écœurant. Mais donc, enfin, moi j'ai découvert vraiment, on va dire, Destiny avec cet épisode-là, et j'étais surpris de voir à quel point, en fait, c'était un jeu qui avait une sorte de léthargie. Qui communiquait en fait, et je serais incapable de dire si cette léthargie elle est positive ou négative, mais ce qui est marrant c'est que c'est très rare, c'est que c'est un jeu auquel je jouais souvent, entre juste avant d'aller me coucher, entre minuit et 1h du matin par exemple. Et j'allais me coucher, mais serein, reposé. En fait, toi, c'est pas un jeu qui va t'énerver. Mais oui, non, mais en fait, la plupart du temps, voilà, tu vas jouer un jeu, surtout à fortiori, un shooter, quoi. Et là, pas du tout. C'est vraiment un jeu où...
C'est mieux qu'un somnifère, en fait.
Mais ouais, t'es sur un rail, tu sais que ça va pas être très difficile.
Je suis sûr que ce soit hyper vendeur pour FPS.
Mais c'est pour ça que je te dis que je suis incapable de dire...
Mais tu dormais bien, du coup, après.
Parce que c'est reposant, en fait. T'es dans des grands espaces... C'est pas dur, c'est pas compliqué, tu sais que tu vas tuer des mobs et un petit boss à la fin qui va te donner un cadeau, et voilà, et c'est tout.
Et surtout, c'est son visage sur le long terme. Enfin, j'ai pas joué au deuxième, mais le premier était comme ça, c'est-à-dire qu'on jouait pendant des semaines.
Et du coup, effectivement, en termes d'intérêt, j'ai beaucoup de... Enfin, moi j'ai traversé ça, j'en retiens strictement rien. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vrai intérêt du jeu commence après la fin de la campagne principale.
La campagne principale
qui est... abominablement nul en termes scénaristiquement, c'est une catastrophe. Les dialogues, au secours, une VF.
Les personnages, le design des personnages est horrible aussi, les méchants. Enfin, vraiment,
ils sont modifiés par rapport au niveau zéro. Il y a eu le look des persos.
Méchant, le gros méchant avec sa voix grave et tout. On est vraiment au niveau
Star Wars pour des
On dirait qu'ils veulent absolument s'écarter de Halo, j'ai l'impression, non, en termes de look, où ils cherchent vraiment.
Le scénario de Halo n'a jamais été forcément sa force non plus.
Du design, du look des personnages, s'écarter un maximum de ça.
Voilà, il faut vraiment voir toute cette campagne comme une amorce avant de faire les raids, etc. Mais moi, j'irai pas jusque-là.
Allez, on enchaîne avec peut-être une meilleure impression générale. Production espagnole du studio Mercury Steam, qui était connu déjà pour la série des Castlevania Lords of Shadow. Et là, ils reviennent sur la 3DS ou la 2DS, comme vous voulez avec Metroid Samus Returns. Allez, j'y vais, on arrête les intros. Metroid, 3DS, retour aux sources.
Ouais, reprise donc de l'opus de 91 sorti sur Game Boy tout court, hein, donc en noir et blanc, monochrome d'époque. Donc, comme tu disais, remasterisé par le studio espagnol qui avait travaillé sur Castlevania. Moi, j'aime bien. J'ai dû avoir 3 heures de jeu, donc je ne l'ai pas fini, hein, mais j'ai bien avancé dedans. Moi, je trouve que visuellement, il tient bien la route. J'aime bien les effets 3D. Alors, on en parle rarement de la 3D sur 3DS. Ça a été un peu mis à l'écart, honteusement. Alors que là, je trouve que ça marche bien.
Quand on glisse les ennemis, notamment, il y a les petits...
Ouais, il y a des vrais effets de jaillissement, ce qui est rare sur 3DS. Donc ça marche bien. Je trouve qu'il y a une...
La 3D relief.
Oui. Ah oui, le truc d'origine de la 3D.
Comme dit France, quand t'as une explosion, t'as un petit truc qui sort. Et ça, c'est fou.
Ouais, j'avais oublié.
C'est vrai que j'avais oublié. Pour moi, le curseur, il est toujours en bas.
C'est rare, mais ça marche. Non, il faut vraiment l'essayer sur ce genre de jeu.
Il y a d'autres jeux qui l'utilisent encore ou
plupart. Hein, mais la plupart,
la
plupart ne font pas l'effort de vraiment travailler. Là, il y a un vrai travail sur les perspectives. On le voit peut-être à l'écran, mais il y a vraiment des effets de profondeur. Il y a un vrai effet. On est sur un jeu 2D de base, en idéologie, de philosophie. Philosophie de jeu, puisqu'il vient de la Game Boy, mais on sent qu'il y a eu un vrai travail de rehaussage 3D, d'effets, etc. Et ça marche bien. La musique est très très bien. Je trouve qu'il y a des vraies nappes musicales vraiment réussies. Moi, j'y joue au casque et on a un vrai. En tout cas, tout ça pour dire que ce jeu, il a beau être un format, il a été pensé en format portable, vraiment pour une console plutôt modeste qui a été rajustée aujourd'hui pour une console un peu plus musclée, mais c'est un jeu foncièrement portable, mais qui arrive malgré tout à vraiment développer l'atmosphère Metroid que j'aime bien moi, c'est-à-dire le sentiment de solitude, l'inquiétude à chaque passage dans une nouvelle pièce. Et puis là, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est qui a été pas mal boosté par rapport, je crois, à la version originale, c'est le côté combat. On est tout le temps en mode combat, c'est-à-dire qu'on a des... Il y a un effet de... Il y a une arme, je crois que c'est une arme blanche, qui nous permet de repousser au contact des monstres qui viennent sur nous. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en stress, on est tout le temps sur le qui-vive, à faire attention à notre tempo par rapport aux monstres. Les monstres reviennent tout le temps, donc on est tout le temps... En fait, on s'ennuie pas, on n'a pas ce phénomène, enfin moi, je l'ai pas vécu, qu'on peut avoir dans certains Metroidvania de parcourir des salles vides au bout d'un moment où on finit par s'ennuyer. Là, je trouve qu'il y a toujours quelque chose à faire. On débloque toujours des choses. Et il y a ce phénomène de reprise d'énergie qui est bien articulé avec l'assassinat en masse de monstres qui fait que voilà. En fait, tout ça marche bien. La formule marche bien. Et moi, je trouve, on a une expérience Metroid vraiment satisfaisante sur un format portable. Et ça, c'est pas donné parce que c'est encore une fois une ambiance très particulière avec, on sait, l'inspiration du Alien de Ridley Scott, etc., qui est foncièrement là dans l'univers Metroid. Et là, je retrouve tout ça au bout de 2-3 heures de jeu et j'ai pas encore fini le jeu. Donc,
France.
Oui, bah, je suis tout à fait d'accord. Moi, je trouve ça un.
C'est bon, vous êtes d'accord.
Non, mais c'est vrai, moi, j'avais par exemple.
Fringue et Sonic, on était tous d'accord. On tous mauvais avec
Cuphead. C'est à la fois un bon Metroid et un bon jeu, parce que c'est rare en plus, les Metroid en 2D. Moi, j'aime toujours bien le Metroid Zero Mission sur GBA. Mais j'avais trouvé ça
bon
sublime.
Metroid, voilà. Moi, je pense.
C'est quand même vraiment cool de pouvoir.
C'est l'ADN.
Alors, les primes sont très bien, mais la 2D quand même.
C'est vraiment cool de pouvoir faire ce Metroid qui est, somme toute, très scolaire en fait, aussi dans son genre. Alors après, on pourra critiquer peut-être l'ajout d'un pouvoir qui permet de révéler la carte autour de soi. On n'est pas obligé de s'en servir, mais c'est vrai que du coup, ça peut un peu anesthésier l'effet exploration et tout. Mais enfin, ça reste quand même un vrai plaisir. Et je trouve ça rigolo, puisqu'on parlait de Sonic Mania tout à l'heure, justement, de souligner que ce Metroid donc, est un peu en concurrence avec un remake de fan auquel des gens ont joué. Et donc, il y a un peu un débat. Moi, j'ai pas du tout touché à ce remake.
Un remake
fan.
Du Metroid ?
Du Metroid 2.
Ah, je sais. Ah, Metroid de fan. Oui, un remake de fan.
Je sais plus si Nintendo a essayé de l'empêcher ou quoi, mais enfin, bref, il existe et il y a des gens qui l'ont joué. Et donc, du coup, il y a un débat sur quel est le meilleur remake de Metroid 2, du coup, entre le remake officiel Mercury Steam Nintendo et le remake des fans. Et donc, il y a des gens qui vont défendre que le meilleur remake, en fait, c'est pas celui-là, c'est l'autre qui est dans un style graphique plus. Parce que là, on voit qu'il reprend un style 3D, en fait, à la Metroid Prime et tout. Donc l'autre est dans un style plus dessiné, enfin l'ancien.
Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est tu parles d'un jeu un peu scolaire, et c'était un peu ce qu'on pouvait reprocher au Castlevania du studio qui perdait un petit peu en intensité au bout d'un moment, quoi. Donc
moi, je trouve
toi,
que
t'as joué avec moi au Metroid.
Oui, bah, je trouve qu'il perd. Tu vois, je commence
un
peu
au bout de quelques heures.
Donc j'étais très bien dedans au début, et bon là, je continue, mais je suis un peu.
C'est ce qui arrivait sur le Castlevania. Alors est-ce que c'est pas une problématique de ce studio de
je sais pas,
un peu scolaire,
un peu la distance. séance.
Allez, après le blockbuster tout à l'heure avec Destiny 2, le DLC de la rentrée, mais c'est un DLC standalone, non ?
C'est la nouvelle mode maintenant, voilà, c'est DLC les DLC qu'on voit à part.
Un nouveau chapitre à la grande histoire de Corvo et Emily, la grande ère Caldwin sur, oui. Sur Dishonored, la fin de l'ère Caldwin, c'est ça ? C'est
ils la conclusion. Tout, hein, pour le coup. Hein ? Ils apparaissent pas du tout.
Ils apparaissent pas du tout.
Ils sont en toile de fond. Ils sont en toile de fond.
Bon, d'accord. D'accord. Bon, ils sont en toile de fond quand même. Bon, bref, j'ai fait un lancement pourri. C'est pas grave, je parle de Dishonored, Death of the Outsider. I've been searching for months. The outsider preys on weakness. A fear that grips your throat, bends your spine, leaving only blood and death in his wake. I've seen the people he's twisted with poisonous magic. He's played God for too long. I'll find out if he can still bleed. Dishonored, Death of the Outsider. Ayant raté mon introduction, je ne vais pas continuer dans cette veine-là et te passer la parole, Kevin, avec donc ce retour Arcane Studio, Dishonored.
Ouais, en gros, c'est plus une suite en fait des DLC du 1. C'est où on va revoir le personnage de Daud, qui était en gros un autre champion choisi par l'Outsider, qui était plus ou moins le rival de Corvo, et le personnage de Billy, qu'on voit beaucoup plus en tant que PNJ dans Dishonored 2. L'idée, c'est juste que ces deux personnages-là, donc Daud et Billy, décident d'aller tuer l'Outsider, qui est en gros, tel qu'il a toujours été décrit dans la mythologie Dishonored, une sorte d'éminence grise, de dieu un peu omniscient, qui choisirait en gros des champions, leur donnerait sa marque, ce qui expliquerait tous les pouvoirs dans le jeu. Ce qu'il faut dire à propos de ce DLC, c'est que, de ce standalone, c'est qu'il consacre une fois de plus le studio comme une sorte d'usine à nerd incroyable de talent. Parce que pour moi, ces jeux-là, c'est un peu du level design porn, clairement. Tu vois, il y a un côté genre regardez comment on a bien tout pensé, et les joueurs derrière se disent regardez comme moi, je vais peut-être être encore plus malin que les développeurs et trouver des chemins auxquels ils auraient. Ça marche toujours, c'est incroyable. Même si j'ai quelques doutes sur l'utilisation des nouveaux pouvoirs, mais bon, admettons. Je veux dire, sur le fond, c'est toujours fabuleux. Par contre, j'ai beaucoup de regrets quant à l'aspect narratif, et je trouve que c'est vraiment ce qui manque dans cette équipe autour de Dishonored. C'est une sorte de script doctor, quelqu'un qui arriverait à mettre du lion un peu entre tous les épisodes et même au sein d'une histoire, parce qu'ils sont très bons pour écrire des manuscrits in-game que tu lis et que tu fais un peu chier. Mais par contre, pour raconter une histoire cohérente par rapport à tout ce qu'ils ont créé depuis le début, c'est pas le cas.
Il y a plusieurs strates de narration.
En fait, moi, j'ai un vrai regret, c'est que tu vois, le personnage de l'Outsider, moi, il m'a fasciné dans le premier, je le trouve incroyable. C'est un personnage, justement, qui est tout puissant, surpuissant, qui arrive à... Qui s'ennuie, qui du coup joue avec le destin un peu des hommes comme ça, juste pour tromper l'ennui. Et là, ils en font un personnage un peu accablé par son destin, etc. Et je trouve qu'il y a une incohérence de fond, et ce qui m'a un peu gâché l'expérience de jeu. À jouer, c'est agréable, même si encore une fois, je suis pas très bon pour jouer infiltration. Mais je trouve que c'est presque ce morceau-là, ce standalone, déprécie un peu, disons, la cohérence de tout l'univers qu'ils ont écrit depuis le début. C'est mon regret. Après, à jouer, c'est toujours cool.
Franz ?
Moi, sur le scénario de Dishonored, globalement, j'ai jamais bien compris qui était cet outsider et tout. Donc, moi, de toute façon, les scénarios de jeu, j'ai toujours beaucoup de mal à suivre. Après, moi, j'avais déjà dit pour Dishonored 2 que j'aime beaucoup leur façon de donner une cohérence à l'intérieur des niveaux, par le biais de beaucoup de micro-fictions pour dire voilà, du coup voilà, ça ils savent très bien faire. C'est vrai qu'après, pour comprendre l'histoire globale, moi je suis aussi largué. Après, voilà, moi je trouve qu'effectivement, en termes de level design, c'est toujours absolument extraordinaire. Enfin, c'est vraiment effectivement, enfin, c'est exactement ce que tu as dit, donc c'est pas la peine que je leur dise. Après, juste peut-être signaler que l'originalité un peu de cet épisode, c'est que on commence avec tous les pouvoirs. Donc il y a trois pouvoirs en fait, donc la téléportation classique, un peu améliorée, enfin voilà. On peut aussi bloquer le temps et puis naviguer pour placer des marqueurs. Et puis, on peut prendre l'apparence de quelqu'un pour se balader dans le niveau. Bon, tout ça est bien géré, mais du coup, c'est intéressant aussi d'avoir les trois pouvoirs au début. Ça fait un peu comme dans le dernier Zelda. Du coup, ça, je pense que ça leur a donné aussi plus de possibilités pour développer les niveaux derrière, parce qu'ils savent que voilà, ouais. On a tout de suite, tous les joueurs peuvent tout de suite faire tout ce qu'ils peuvent dans tous les niveaux, donc c'est pas mal comme point de départ, je trouve, ça change un peu.
Sachant que la téléportation est quand même elle est mal foutue, quoi.
Elle est un peu servie, mais ça permet d'exploser les gens de l'intérieur, et c'est plutôt ça.
Oui, ça sert.
Allez, c'est pas mal, ouais, fonctionnalité. Plus, hein. Bon, allez, on va expédier, une fois n'est pas coutume, le rendez-vous annuel des fans de jeux de basket avec NBA 2K18. Jealousy, I can read it with telepathy. You making me sick, you making me sick. I might run up, run up, run up and click. It is an ultimate marathon from the land, which is the city of Babylon. NBA 2K18, Visual Concept, qui revient sous la houlette de 2K Games, évidemment, 2K Sports, qui revient avec une nouvelle mouture de son jeu qui domine, qui ultra domine le monde des jeux de basket depuis quelques années déjà. Hein. Ils ont un peu raflé la mise depuis 2K11 en 2010, du coup. Et donc, jusqu'au point de virer NBA Live du game. NBA Live qui revient, mais bon, qui revient un peu, voilà, un peu comme...
Oui, bah, ça fait un moment que c'est revenu, mais apparemment il n'est pas si mal.
Voilà, il revient de manière non déshonorante. Voilà. C'est, avec une très bonne idée dans ce NBA Live 18, c'est d'avoir incorporé la WNBA. C'est le premier jeu de basket qui incorpore le basket féminin, donc c'était à signaler. J'espère que justement Touquet suivra dans cette voie. Avec à chaque fois les modes de jeu qu'on connaît, le mode ma carrière évidemment, qui est le mode star, hein, où on prend un joueur à ses débuts, on le fait grimper dans la hiérarchie des joueurs NBA, sachant que la qualité des scénarios varie, hein, de passable à franchement naze.
Et tous les ans, tu nous vends du rêve à ce moment-là, quand tu nous parles de section scénaristique.
Là, on est dans un scénario complètement inintéressant, mais qui, du coup, n'est pas hyper envahissant. Hein.
C'est juste intéressant.
Le seul point à noter, c'est qu'on n'est plus drafté, donc on ne fait plus la partie universitaire, on est un free agent qui signe chez une équipe et on arrive directement chez son équipe favorite. C'est un raccourci, hein, donc qui moi m'a un peu surpris, hein, au départ. J'avais pas prévu d'arriver dans mon équipe que j'ai choisie au départ. Et avec le gros truc qui est vendeur, c'est on a le Neighborhoods qui est simili-ville, ouais, comme ça, qui est un peu toute naze, hein, voilà, qui permet de passer du centre d'entraînement à la salle de musculation, à différents modes de jeu, au magasin, avec de la pub partout à en vomir. Ah oui, non, mais ça, c'est horrible, quoi. Il y a des marques de chaussures, des vendeurs, des trucs comme ça qui arrivent partout. C'est insupportable. Donc, reste sur le terrain, ça reste la meilleure simulation de basket. Et voilà, c'est sur le terrain que ça se juge, tout ça. Enfin, je sais pas si tu...
Non, mais là, tu parles du mode solo. Pour moi, ça reste de l'enluminure, tu vois. Le cœur du jeu, lui, il est toujours incroyable. À jouer... Alors, c'est un peu la thématique de l'émission. Moi, je suis pas très bon non plus à NBA 2K, hein. C'est dur. Il y a beaucoup de trucs à... Le tuto, il faut l'encaisser quand t'as pas joué depuis un moment et que tu t'y remets. Il faut tout appréhender, quoi. Mais après, enfin, in-game, c'est dingue, quoi. Ouais. Quand tu vois jusqu'où ils vont, le truc, moi, qui m'a le plus fait marrer, c'est qu'ils aient juste... que Stephen Curry sorte son protège-dents et le mâchouille comme en vrai sur les lancers francs.
Ah, voilà.
Ça, je me suis dit, putain,
ils sont bons. Il y a tous les détails, il y a tous les gimmicks de tous les joueurs NBA qui sont représentés, les gestes de victoire, tous les caractéristiques sont là. Et les Golden State Warriors sont imbattables comme dans la vraie vie, sauf si tu joues avec, auquel cas tu ne peux pas perdre. Hein, voilà, c'est la vérité. Et voilà, reste que... Moi, j'avais eu la bonne idée de prendre la version Switch. Je vais juste aller très très vite parce que j'ai été face au bug le plus incompréhensible de l'histoire des bugs de jeux vidéo, qui n'est toujours pas résolu. Donc en fait, réfléchissez, regardez avant d'acheter une version Switch, si vous avez la Switch, que ce soit bien corrigé, parce que ça rend l'expérience un tout petit peu douloureuse. C'est que le jeu se passe bien avec tous les joueurs sur le terrain, le public et tout ça, ça se passe bien, mais dans l'expérience solo, il y a des cinématiques, des dialogues, et là en fait le son reste temporellement exact, alors que l'image sur RAM, c'est-à-dire que quand un dialogue est fini, et ben donc il y a un décalage évidemment qui s'agrandit au fur et à mesure de la cinématique, et si on a 15 secondes de dialogue, il faut savoir qu'il va falloir attendre 3 minutes avant de récupérer la main sur le jeu, parce que les trucs sont au ralenti, alors qu'ils arrivent à gérer je sais pas combien de personnages à l'écran qu'on est sur le terrain, là, il suffit qu'il y ait 2 personnages qui se parlent et ça part en cacahuète. C'est complètement... J'aimerais bien un post-mortem sur Gamasutra ou un truc comme ça, où les mecs explique pourquoi comment on peut se retrouver face à un bug comme ça. Il y a des plantages aussi sur Switch, donc je ne conseille pas vraiment la version Switch, même si je suis un peu bloqué avec vu que j'ai commencé ma carrière dessus, mais voilà. Donc c'est pour le NBA 2K de l'année, hein. Rendez-vous l'année prochaine à peu près à la même époque, voilà. Yeah. On est arrivé au bout de ce premier épisode de la 11e saison de Silence on Joue. Mais avant de se quitter, et vous n'avez pas beaucoup de temps, allez très très vite, la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Franz?
En ce moment, je relis Pierre Desproges.
Voilà. Merci, c'est bien, toujours?
Bah, c'est toujours bien, il y a des choses qui me font marrer et d'autres que je découvre, voilà. Donc c'est bien.
Toujours d'actualité.
Ça dépend des sujets.
Patrick.
Moi, cet été, j'ai vu ça, It, au cinéma, donc reprise du fameux roman de Stephen King. J'ai trouvé ça très, très bien fichu. D'ailleurs, ça fait un carton box-office. Même si, j'avoue que bon, le téléfilm a truffé de défauts, hein, de 90, mais il y a Tim Curry, et il me manque, Tim Curry.
Ouais. beaucoup trop de jumpscares dans ce remake.
Dans le remake, ouais, il y en a beaucoup. Mais je trouve que c'est vraiment bien fichu, quand même. Enfin, je trouve que... En termes de
il fait vraiment
réal.
Peur. Hein. Moi, j'ai pas vu, mais l'image, j'ai pas, ça fait pas envie.
Non, il fait pas tellement peur à la fin.
Franchement, moi, je trouve. Mais Tim Curry, quoi. Enfin, Tim Curry. Moi, je trouve que c'est.
J'ai un pote, il a peur des coudes. Donc, je pense qu'il n'ira pas le voir.
Moi, Kevin. Juste, je me suis mis au bureau des légendes, un peu à la bourre. J'ai tout rattrapé. J'ai quasiment tout rattrapé. Il me reste un ou deux épisodes à voir. C'est incroyable.
J'ai toujours pas vu, moi.
Une tension dingue, une écriture. Hyper précise, on n'est pas dans le côté un peu documentaire mal joué de beaucoup de séries françaises, c'est vachement bien.
Moi, j'ai découvert The Good Place, qui est dispo sur Netflix et dont la deuxième saison arrive au compte-goutte sur Netflix, c'est pas habituel. Le pitch, hein, c'est Eleanor qui se découvre dans un bureau et on lui apprend qu'elle est morte. Et donc, voilà, maintenant, c'est après la vie, qu'est-ce qui se passe? Et elle a de la chance parce qu'elle est à The Good Place et non pas du tout The Bad Place. Et c'est l'endroit où se retrouvent les gens qui ont une vie, parce que chaque action a un compte négatif, des points positifs, points négatifs. Donc si on a un total très positif, à la fin on arrive à The Good Place. Bon, ça va pas vraiment se passer comme prévu, évidemment, parce qu'il y a déjà une saison 2 qui est en cours.
On joue un caped ou
Elle est pas maintenant avec. Elle a été alors qu'elle a ramassé une margarita par terre, elle a été cognée par un rail de caddie de supermarché. C'est un peu bête, hein, mais c'est comme ça. Ouais, c'est mais c'est très très bien, c'est très très drôle, c'est très intelligent, je trouve. Voilà, The Good Place, actuellement sur Netflix. Voilà, je voulais dire un mot. Merci à l'équipe de No Life de nous accueillir. Vous avez vu, on n'est plus dans les mêmes décors. C'est parce que l'IB déménage, donc on a dû faire. Et ils nous ont accueillis encore une fois. Ils nous accueillent sur leur antenne déjà, et maintenant chez eux. Donc encore merci à toute l'équipe de No Life. Et puis nous, merci. À tous. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, ici même, pour parler de jeux vidéo. Ciao.